France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Les carnets, le jeu des 1000 euros, sont aujourd'hui dans la Sarthe. Toujours à l'affût des inventions, des villes et des campagnes, cette édition se penche sur une histoire peu banale qui prend racine dans la campagne sartoise au début des années 30, sur l'invitation d'un paysan artiste céramiste de la région, Norbert Bézard. Le Corbusier va plancher sur un projet utopique de ferme radieuse et de village coopératif dans la commune de Piacé. Il s'agit, selon la formule du célèbre architecte, de sortir le monde rural du romantisme du fumier. Quelle drôle de formule. Bien que dessiné, planifié par Le Corbusier, le projet restera dans les cartons jusqu'au jour où un designer de la région, Nicolas Hérisson, va décider de reprendre les plans avec son association Piacé le Radieux, Bézard Le Corbusier. Nicolas, que nous avions rencontré une première fois en 2009, sera notre second invité. Mais notre premier coup de cœur concerne une restauratrice d'accordéon pas tout à fait ordinaire, Camille Hamm.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Camille Hamm, bonjour.
Bonjour Philippe.
Hamm, H-A-2-M, vous avez commencé comme pianiste, comme la maison Hamm.
Et non, je ne suis pas en famille avec eux, parce que moi je viens d'Alsace, mais si ça se trouve, il est possible qu'on ait des origines en commun.
Ouais. Et selon l'expression facile, vous êtes passé du piano au piano à bretelles.
Exactement.
Qu'est-ce
l'instrument voyageur, ouais. Après l'instrument posé dans le salon, oui, tout à fait.
Que s'est-il passé pour que vous changiez de registre et d'instrument?
Alors, j'ai vécu à Paris, tout simplement. Et il n'y avait pas beaucoup de place dans mon petit appartement. et la musique me manquait, donc je m'y suis remise et j'ai hérité de l'accordéon de mon grand-père, qui avait appartenu également à mon arrière-grand-père, donc comme quoi les instruments peuvent durer très très longtemps. Et j'ai démarré comme ça l'accordéon diatonique dans la région parisienne à Nanterre.
Oui.
Et voilà, c'était le début d'une grande aventure et d'une grande histoire d'amour.
Ouais, c'était l'association Diato Trad de Nanterre, hein, pour être très précis.
Oui.
Et Benoît, dans son courrier, dit « Bizarrement, le travail de Camille va à l'encontre des canons du métier où le fabricant est bien plus considéré que le simple restaurateur. »
Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine noblesse à construire, hein, ben c'est toujours comme ça dans la facture instrumentale, et il y a une certaine modestie à n'être que réparateur, mais en même temps, comme on voit défiler toutes les marques qui existent et qu'on doit faire face à plein de cas différents, finalement, on ne démérite pas, je pense, les réparateurs qui m'écoutent doivent partager mon point de vue.
Et vous avez été formé à l'Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, l'ITEM, au Mans.
Oui, j'ai déménagé de Paris au Mans pour ça. Et puis après, je suis restée parce que rencontrant des musiciens sur place qui m'ont dit qu'ils étaient en manque de réparateurs dans le coin, j'ai tenté ma chance en démarrant mon activité au Mans.
Alors vous réparez les chromatiques, les diatoniques, les bandes de néon, ce sont des particuliers, des musiciens qui vous les apportent ou vous récupérez de temps en temps, ici et là, des accordéons qui vous tentent et que vous avez envie de remettre à neuf?
Alors oui, les deux, de tout en fait. Je m'occupe des personnes qui sont en difficulté, qui sont musiciennes, donc qu'elles soient professionnelles ou sans être professionnelles, qu'elles fassent de la scène ou qu'elles jouent tout simplement pour leur plaisir. Et par ailleurs, j'ai toujours des petits coups de foudre par-ci, par-là. Je trouve des instruments à réparer également pour moi-même ou pour les reproposer aux personnes que ça intéresse une fois qu'elles sont restaurées.
Alors, votre atelier Manceau s'appelle « Les mains sur les hanches ». Rien à voir avec la chanson immortalisée par Adamo.
Voilà, c'est les hanches. Donc, c'est vraiment la partie de l'accordéon qui vibre et qui fait la note.
Ouais. Et vous avez décidé d'être mobile aussi, avec un atelier mobile?
Oui. Disons que c'était une espèce de rêverie que j'avais depuis longtemps, je trouvais ça assez chouette d'aller à la rencontre des gens. Et ça a commencé à devenir concret quand je me suis rendu compte que les personnes qui venaient me voir venaient de très loin, un peu dans toutes les directions. Et parfois quand ils me disaient qu'eux-mêmes n'étaient pas seuls et qu'il y avait tout un réseau de personnes qui seraient bien contents d'avoir un réparateur pas loin, c'est là que je me suis dit, tentons l'expérience, on va donner des rendez-vous aux gens pour se rapprocher d'eux. Donc que ce soit sur le territoire de la Sarthe ou plus loin, du coup en Normandie, parfois en Bretagne même.
Oui, parce que j'ai vu que vous étiez énormément sollicité, ce qui veut dire que vous êtes peu nombreux à réparer les accordéons.
On doit être effectivement une trentaine en France, c'est-à-dire que l'accordéon a souffert d'un désamour, n'est-ce pas?
Oui.
C'est un phénomène générationnel qui fait que ça s'est un petit peu perdu, et nous on est là justement pour remontrer que cet instrument est moderne, et que voilà, il faut le faire vivre.
Oui. Et j'ai découvert que vous étiez entrepreneur salarié de la coopérative d'activité d'emploi Copanam.
Oui, effectivement, je m'intéresse à l'économie sociale et solidaire depuis longtemps, en fait. Alors, on est 800 entrepreneurs et 800. 300 associés,
oui.
À peu près. Hein. Mmh. Et le fait de découvrir qu'en réparant des accordéons, je pouvais me retrouver également dans ce schéma grâce aux coopératives d'activité et d'emploi. Quand j'ai démarré mon atelier, j'étais directement sous cette formule-là. Ce qui permet aussi, je trouve, de moderniser la vision qu'on a de l'artisanat, c'est-à-dire de rester en réseau avec d'autres professionnels, de s'entraider les uns les autres, de créer un système de solidarité, que les artisans gagneraient à connaître plus, d'ailleurs, de manière générale, je pense.
Est-ce que vous avez eu, Camille, dernière chose, un accordéon exceptionnel entre les mains réparé ?
Là, je viens d'avoir un accordéon Bulgari pour un musicien de très grande qualité,
oui.
Qui a acheté l'instrument de sa vie, ça y est. Donc, c'est un instrument de concert noir, magnifique, qui était très lourd, avec beaucoup de voix à l'intérieur différentes. Et puis sinon, j'ai un autre instrument que j'apprécie particulièrement, c'est un instrument du 19e siècle qui s'appelle l'harmonie flûte, et qui est donc de la famille des accordéons. Il a un soufflet, il a des hanches. Ça ressemble un petit peu à un harmonium indien, c'est-à-dire le soufflet est par derrière. Et ça, c'est une énorme restauration à faire, mais quand il jouera, il va attiser la curiosité de plein de monde, je pense. Donc je me réjouis de terminer ce travail.
Ouais. Camille, la belle âme, c'est facile, certes, mais paraît-il que quand on vous voit travailler, un hanche passe.
Oh. Un ange passe, ah oui, ouais.
C'est drôlement bien ce que vous faites. Les mains sur leshanches.fr pour l'adresse, il y a une page Facebook, suivez le travail de Camille, vous pouvez faire appel évidemment aussi à ses services qui satisfont de plus en plus de musiciens. Merci Camille et bonne route.
Merci beaucoup.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand sur France Inter.
Quand des entreprises d'une métropole se mobilisent pour les personnes les plus démunies, cela se passe dans la métropole lyonnaise et cela s'appelle l'entreprise des possibles. Le site, c'est d'ailleurs l'entreprise des possibles toutattaché.org. L'argumentaire fait tilt, je cite, parce qu'il y a dans nos entreprises des femmes et des hommes prêts à s'engager, parce que nos entreprises ont des ressources inexploitées qui ne demandent qu'à servir l'intérêt général. Parce que nos entreprises sont convaincues de leur rôle sociétal. Fin de citation. La mission de ce groupement est de favoriser la réintégration sociale des personnes qui n'ont plus de toit ou qui pourraient se retrouver à la rue. L'illustration de l'engagement de cette entreprise des possibles est le co-lodging. N'en tournez pas le bouton de votre poste. Entendez, la mise à disposition de locaux et de terrains à des associations ou à des bailleurs sociaux. Dans le cas lyonnais, il y a une réserve foncière de 3000 m² qui a été proposée à Habitat Humanisme, que nous connaissons pour avoir invité à plusieurs reprises son génial créateur Bernard Devers. Cet acteur majeur de la lutte en France contre le mal-logement vient donc d'aménager ce terrain d'un parc de logements temporaires pour les personnes en très grande précarité. Il a été baptisé le village mobile, sauf que les mobile homes sont des containers transformés en studios et en pièces de vie. Et l'entreprise des possibles a offert, c'est là où ça devient intéressant, des heures de bénévolat de ses collaborateurs pour préparer le programme et a soutenu la réalisation par des dons de journées de congés monétarisés. Le résultat est là, avec la possibilité aujourd'hui d'accueillir jusqu'à 80 personnes. Je vous conseille aussi de visiter le site de l'organisme de Bernard Devers, habitat-humanisme.org. Nicolas Hérisson, bonjour.
Bonjour.
Nicolas, c'est un anniversaire aujourd'hui. Ça fait 10 ans que vous n'aviez pas parlé dans les carnets de campagne.
Exactement.
À l'époque, c'était la naissance de l'association Piacé le Radieux, Bézard le Corbusier. Piacé le Radieux, il va falloir expliquer. Mais vous avez dit Bézard, comme c'est Bézard. Vous pouvez nous apporter quelques explications?
Oui, en effet, le nom de l'association est un peu long, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'à Piacé, il y a eu un projet de Le Corbusier dans les années 30, et tout ça avec un local qui s'appelait Norbert Bézard. Ensemble, ils vont imaginer une ferme radieuse et un village coopératif. Mmh. Voilà, l'idée était d'amener la modernité dans les campagnes.
Ouais. Alors, on a les carnets Le Corbusier de 1933, lorsqu'il dessine son projet, il y a des maquettes qui ont été réalisées, et quand on connaît, par exemple, la cité radieuse à Marseille, on se dit, la ferme radieuse telle que Le Corbusier l'imaginait était sous le même type de configuration et de dessin.
Oui, exactement. De toute manière, Le Corbusier redessine toujours les mêmes choses. Il a beaucoup dessiné, mais très peu construit. Donc c'est vrai que quand on voit la ferme radieuse, qui est un bâtiment sur pilotis, où tous les principes corbusiens sont appliqués, toit terrasse, pilotis, fenêtre en bandeau, enfin voilà, Et c'est vrai que la cité radieuse est déjà dessinée aussi dans le village coopératif. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans le village étaient logés dans un village vertical. Un projet très novateur et très radical pour l'époque.
Oui. Et vous lui avez donné l'ambition qui était celle d'origine en faisant dialoguer des architectes, des artistes contemporains avec la nature à travers des parcours d'art. Alors on dit apiacé, pas opiacé, parce que sinon ça fait trafic de stupéfiants. Et vous avez aménagé des lieux, il y a des espaces d'exposition qui sont magistraux, et en particulier un ancien moulin qui a été réhabilité.
Oui, l'ancien moulin, alors j'avais racheté avec mon frère, mon grand-père vivait à Piacé, hein, je suis pas un Parisien qui arrive dans les campagnes, c'est-à-dire que j'avais des racines, et connaissant ce projet, l'idée c'était vraiment de le faire connaître au plus grand nombre, donc on a réécrit une exposition, j'ai refait les maquettes, maintenant il y a un espace de 200 mètres carrés consacré au projet, nous faisons partie d'un itinéraire européen des sites Le Corbusier, on est le seul site non construit, qui reste une utopie. Donc l'idée, c'était pas de muséifier ce projet, c'était aussi de le faire vivre, comme vous disiez, en invitant des artistes, des architectes et des designers à réfléchir à la ruralité et aussi à la modernité. Mmh. Parce que Piacé, c'est vraiment un petit village de 360 habitants du Nord-Sarthe, assez sinistré culturellement quand même.
Oui. Y a des lieux insolites hein, sur votre territoire, des gîtes. Je me souviens d'un hommage à Duchamp au milieu des champs, enfin des prés et au milieu des vaches. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a d'autres prévisions et en particulier le point fort en juin prochain, le 20 juin 2020, que va-t-il se passer, Nicolas ?
Pour animer ce projet, il y a un parcours d'œuvres, il y a plus d'une trentaine d'œuvres d'architecture, micro-architecture ou de design qui se trouvent dans le village et sur les communes alentours. Et le 20 juin, il y aura donc cette quinzaine radieuse autour de nouvelles œuvres qui vont s'inscrire sur le parcours. Et notamment une assez forte qui va être faite avec Pascal Rivet, pour lequel on avait déjà réalisé un grand tracteur en bois qui avait été brûlé aussi lors de la fête de la moisson. Enfin voilà, c'est toujours un événement aussi festif. Et Pascal a laissé en dépôt une vieille Lincoln Continental en bois, une sculpture. Et ça va être donc une vieille américaine dans nos campagnes abandonnée. Et il fallait y trouver une vieille grange qu'on trouvait pas. Et ça va être les frères Bouroulec, les célèbres designers, qui vont dessiner cette enveloppe. Donc c'est un gros projet, quoi. Aussi des artistes qui nous font confiance, qui nous aident. C'est vraiment très important, hein, la générosité des artistes sur ce projet.
Mais Nicolas, en restant confiné, si vous me permettez l'expression, dans cette campagne profonde à Piacé, est-ce que vous n'avez pas peur de vous rendre invisible, ou alors au contraire de vous rendre plus visible parce que vous êtes quasiment devenu invisible?
Je crois qu'on a une visibilité assez importante. Après, les gens, c'est vrai que ça met un peu de temps pour qu'ils viennent nous voir, mais quand ils viennent, ils reviennent en tout cas. Et en tout cas, ça permet de faire beaucoup de choses aussi. Je pense que plus que si on avait été en ville, il y a un grand espace de liberté qui est permis aussi avec l'aide de la commune, bien sûr, qui nous soutenait sur ce projet, nous laisser cette grande liberté d'agir aussi sur le territoire, quoi.
Eh ben, on est ravis, en tout cas, ravis d'abord de reprendre contact avec vous, ravis de cette évolution, ravis des actualités prochaines et en particulier de la quinzaine radieux à partir de juin prochain. Le site, c'est piacéleradieux.com. Vous allez trouver cela à nos pages d'émission. Merci, Nicolas.
Merci beaucoup.
Je rappelle les prochaines destinations de l'année 2020 pour les Carnets. La semaine prochaine, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, les Yvelines et les Pyrénées-Orientales. J'arrête la liste pour l'instant à ce département. Il y en aura d'autres après. N'hésitez pas à nous écrire.